Coudon, ce matin, on avait-tu comme une liste d'amis du show qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout, puis on s'est dit, OK, ben là, tu sais, Kev Dubé, ça fait longtemps, ouais, on l'invite.
Check.
Jacinthe faisait, tu sais, deux semaines,
ouais,
c'est pas si long,
même.
Mais c'est juste des fois, elle est là deux fois par semaine.
C'est
là.
Ça,
ça arrive.
C'est toi dans ta bromance, là,
non,
ton ami.
C'est ça.
Mais Alex Tremblay, oui. La marche, notre citoyen, ça fait très longtemps, ça remonte à notre fameuse émission. Au sabab.
C'est vrai, où on a parlé de l'histoire du sapin.
Sapin de Noël.
Sapin de Noël, voilà. Les décorations de Noël aussi. Alexandre Tremblay, Lamarche, qui est historien et directeur général ILO du Palais. Alex, comment ça va?
Super bien, vous autres.
Ça va très, très bien. Merci, merci d'être là. Ça faisait effectivement, on a mis quand même un petit bout.
Un petit bout.
Comment se passe le début d'année là, à l'ILO du Palais?
Ben, ça va bien. On a un nouveau géorallye sur le carnaval qu'on vient de lancer, mais on a surtout une nouvelle expo sur le site patrimonial du Vieux-Québec et de Sillery qu'on vient de lancer, dont on est très fiers.
Pas été toujours facile, si je comprends bien, non plus, de maintenir le patrimoine de certains endroits, dont, comme tu disais, là, Vieux-Québec ou Sillery.
Ben, effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que ben, c'est pas naturel de conserver son patrimoine. Puis, dans une certaine mesure, on peut comprendre. C'est une ville qui va bien sur le plan économique, c'est une ville qui détruit ses vieux bâtiments, qui en construit des nouveaux. Et pendant longtemps, ben, des villes comme Montréal, comme New York, etc., se sont développées puis n'ont pas conservé leur patrimoine. Et au final, ce qui a aidé Québec, ça va paraître un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est qu'au milieu du 19e siècle, ça va mal sur le plan économique. Et donc, ben, il n'y a pas de moyens pour développer des nouveaux sièges sociaux. Détruire des bâtiments. Et ben en 1870 à peu près, quand Lord Dufresne, le nouveau gouverneur général du Canada, arrive à Québec et qu'on veut moderniser la ville et détruire ses vieux murs, ben il dit, ben voyons, qu'est-ce que vous allez faire? On se croirait au Moyen-Âge dans votre ville. Cette ville est superbe sur le plan patrimonial, puis vous allez vraiment détruire ça. Et donc, c'est comme ça qu'est venue effectivement la volonté de préserver le patrimoine à Québec.
Donc, nos fortifications ont aidé à avoir cet esprit de patrimoine?
Exact. Et même, ils sont particulièrement importantes parce qu'en 1985, quand la ville va être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est d'ailleurs le 40e anniversaire de ça cette année, c'est pour ça qu'on fait cette exposition-là, okay. Ben, y a deux critères pour lesquels on reconnaît Québec comme étant un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la seule ville au nord du Mexique, en Amérique, qui a conservé ses fortifications.
Wow.
Et ben, c'est le foyer du fait français en Amérique du Nord.
C'est assez hallucinant que ça a pris un flash.
Ouais.
Un flash marketing, on va se le dire, pour pas démolir ce qu'on avait là de patrimoine, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on attire des milliers, voire des millions de touristes en ville. C'est capoté bien raide, là.
Effectivement, puis ben, ce qui est assez paradoxal, c'est que des fois, cette volonté-là de créer quelque chose pour les touristes prend le pas un peu sur la conservation du patrimoine. Parce que oui, ben, c'est important de conserver le patrimoine, puis c'est un moteur de développement économique, ça amène des milliers de touristes, mais des fois, on va le faire d'une drôle de manière pour créer une espèce de Disneyland. Dans les années 1960, il y a vraiment une volonté de mettre de l'avant tout ce qui est le fait français, c'est la montée du nationalisme québécois. Le PQ va prendre le pouvoir en 1976. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on veut mettre de l'avant que Québec est le berceau de l'Amérique française. Et donc, on va recréer Place Royale comme c'était sous le régime français. Mais tu sais, Place Royale, ça avait évolué comme n'importe quel autre secteur du Vieux-Québec, avec des bâtiments qui, bon, dataient à peu près de la fin du régime français, qui avait été reconstruit après la conquête, et des bâtiments qui dataient du milieu du 19e, du début du 20e. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire des bâtiments authentiques du 19e, donc du patrimoine britannique, parce qu'à l'époque, ben, on juge que l'anglais, c'est l'autre, c'est pas nous, pour reconstruire du faux patrimoine de l'époque de la Nouvelle-France et créer quelque chose qui se veut de plus en plus touristique et de moins en moins authentique. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'un peu dingue qu'on va faire à l'époque à Place Royale et dont on parle dans l'exposition.
Et en matière historique, ça, c'est un faux pas majeur, j'imagine, de venir démolir, même si ça représente l'anglais, l'ennemi, venir démolir des bâtiments qui ont un patrimoine pour en reconstruire des nouveaux?
Effectivement, aujourd'hui, on ferait vraiment plus ça parce que, ben, aujourd'hui, on essaie de voir les bâtiments dans toute leur évolution et d'être capable de dire, ben, celui-là, il y a des couches du 19e, il y a des couches du 18e, du 17e et ainsi de suite. Mais dans les années 1960, il faut se replacer dans le contexte. On n'est pas loin de la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, il y a plein de villes qui ont été rasées à 100%.
C'est vrai.
Qu'on reconstruit pratiquement de zéro, Saint-Malo, entre autres, en France. Et il y a vraiment cette volonté aussi de faire une espèce d'œuvre totale, de faire quelque chose de cohérent. Et donc, il y a beaucoup d'historiens qui jettent la pierre à ceux qui ont reconstruit Place Royale dans les années 60, 70, 80. Si effectivement, ben, c'est clair qu'on ferait plus ça ça aujourd'hui. Je pense que si on est capable de faire aussi bien qu'on le fait aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là ont été des pionniers en la matière et ils ont reconstruit Place Royale. Puis au final, ben, c'est beau. Puis ben, ça permet de voir vraiment comment aurait pu être Place Royale à l'époque du régime français. Puis dans certains cas, on ne savait pas comment étaient les maisons, mais on a vraiment fait des recherches en archives et des recherches archéologiques pour être capable de documenter ça. Et donc, c'est quand même assis sur quelque chose.
Alex, c'est-tu à peu près ce moment-là ou c'est un autre moment dans l'histoire où on commence à penser au patrimoine, puis on se dit, parce que tu sais, on le sait, puis on a juste à regarder ce qui se passe un peu dans le monde, puis on va voir quelque chose de plus moderne bâti sur quelque chose de plus ancien. On va utiliser la fondation, mais on a presque mis à terre ce qu'il y avait là avant pour, tu sais, on voulait presque éliminer ceux et celles qui étaient passés avant nous. C'est à peu près à quel moment dans l'histoire où on commence à faire comme, attends une minute, c'est peut-être mieux pour l'histoire, pour l'humanité qu'on garde un souvenir ou une image de qu'est-ce qui est passé avant?
Bien, je dirais que c'est surtout à partir du 19e siècle. Okay. Là, il y a vraiment la construction de l'histoire nationale. Puis là, bien, on se définit comme Canadien-Français, puis ça va être comme Québécois. Les Français se définissent comme Français, puis ils ont une volonté de reconstruire leur patrimoine. C'est à cette époque-là qu'ils vont restaurer notamment Carcassonne en France, la superbe cité médiévale, qui vont aussi restaurer Notre-Dame de Paris. Ils le font au 19e siècle avant de le refaire récemment à cause de l'incendie. Donc, il y a vraiment une prise de conscience au 19e siècle qui se fait à l'époque, notamment des fortifications sauvées par l'Ordre du Frein et par quelques autres citoyens. Mais ça va continuer tout au long du 20e siècle. Et ça va principalement être le fait de citoyens. Parce que ben, souvent, les promoteurs, les politiciens, des fois, arrivent un peu avec leurs gros bras, puis ben, ils ont une volonté de développer la ville, puis c'est bien, c'est chouette. Mais des fois, ben, ils le font avec des perspectives un petit peu à court terme, et les citoyens sont souvent ceux qui vont sonner sur l'alarme, puis ils vont dire ben, « Hey, on a là un bâtiment qui est absolument exceptionnel, on a là des grands et vraiment, autant en Sillery, dont on parle dans l'exposition, que dans le Vieux-Québec, bien, c'est des organismes comme les conseils de quartier, les comités de citoyens du Vieux-Québec, les sociétés d'histoire de Sillery, la Société historique de Québec, qui souvent se sont levés et ont dit « Hey, si on détruit ça, là, on va le regretter dans 30 ans ». Et des bâtiments, en fait, qu'on ne penserait pas qu'on pourrait vouloir détruire aujourd'hui, ont déjà été, il a déjà été envisagé de les détruire. L'ancien palais de justice de Québec, qui est aujourd'hui le ministère des Finances, juste en face du Château Frontenac.
C'est magnifique.
Tu sais, c'est comme un des plus beaux bâtiments de Québec. Il est juste à côté du Château Frontenac.
On a pensé le détruire.
Ouais. Ben, tu sais, quand on quitte cet endroit-là pour aller à l'édifice Jean Lesage, ben là, ça sert plus. C'est vieux. On va le détruire. Okay. Mais, tu sais...
Y en a-tu d'autres comme ça?
Ben, la côte de la montagne... pas la côte de la montagne, mais la côte d'Abraham. On voulait effectivement détruire les belles maisons patrimoniales qu'il y a là. Le restaurant aux anciens Canadiens sur la rue Saint-Louis, la maison Jacquet. Ça aussi, il avait été question de le détruire. Puis c'est grâce à de la mobilisation de citoyens puis de gens de la Société historique de Québec que ça a été sauvé. Même chose à Sillery, en fait, avec tous les grands domaines. Notamment Spencer Wood de Bois-de-Coulonges, qui est un parc absolument génial. Bien, c'est entre autres parce que des citoyens dans les années 80-90 se sont installés dans le parc pour créer un théâtre, le théâtre du Bois-de-Coulonges, que l'endroit a été préservé. Sinon, bien, ça serait peut-être devenu simplement du lotissement, puis on aurait perdu effectivement ce parc et avec ses vieux bâtiments. Donc, il y a vraiment une œuvre des citoyens, puis c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant dans l'exposition.
L'exposition est présentée jusqu'à quand, Alex, à l'Îlot du Palais?
Elle est présentée depuis la fin du mois de janvier, donc déjà depuis deux semaines, on a quelques personnes qui ont pu venir la voir et qui sont enchantées. Et donc, on peut la voir jusqu'au 7 septembre prochain. C'est le 40e anniversaire de l'UNESCO cette année, de la désignation de l'UNESCO par Québec. Et donc, cette exposition se veut la première activité qui souligne cet anniversaire. Et on vous invite à surveiller tout au long de l'année d'autres annonces qui vont être faites, autant par l'Îlot des Palais que par la Ville de Québec, que par la Société historique de Québec, par d'autres organismes qui vont assurément effectivement faire des choses, des conférences, des visites guidées et d'autres surprises cette année.
Alex, toujours un plaisir de jaser histoire avec toi à Rage Against le matin. Tu passes nous voir quand tu veux. Puis il me semble qu'on est dû pour te donner une petite mission, là, un petit devoir. Là,
on va en trouver une, c'est sûr.
Merci, Alex.
Ben, j'attends ça avec impatience.
Cool. Salut, Alex. Salut.